Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Salut tout le monde, ceci est le 12e épisode de la deuxième saison de Focus Store, le 28e numéro depuis la naissance de cette émission, bientôt 30 donc. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben on sait pas, alors c'est à vous de nous le dire. Conseils, suggestions, réclamations, commentaires, tout ça c'est encouragé et même très apprécié sur la page facebook.com/Focus Store. Mais pour l'heure, vivons plutôt l'instant présent et voyons voir le menu du jour. Comme toujours, on vous parle des objets culturels qui font la une de tous les journaux et on arrête de leur servir la soupe 2 minutes, ou pas. Le casting du jour, c'est Laurent Raphaël, le vénérable et vénéré rédacteur en chef du magazine Focus. Bonjour Laurent.
Salut Myriam.
C'est Nicolas Clément, le respectable et respecté journaliste ciné et BD. Salut Nico.
Salut Myriam.
Et c'est Olivier Van Varenberg, l'aimable et aimé spécialiste. Spécialiste du polar.
J'avais peur, mais finalement non.
Mais oui, je te voyais te crisper. Et non, on t'aime, Olivier.
Salut, Olivier.
On a mis au programme aujourd'hui le dernier film d'Alain René, le dernier roman de James Ellroy, l'album du Canadien Peter et la série de Red Road, Let Us Go.
Focusto !
Bonsoir.
T'étais où ?
Je suis passée chez Georges, je l'avais dit.
T'étais où ?
Je suis passé chez Georges.
Tu vas y retourner alors ? Revenir avec ce Georges, c'est ça ?
C'est vrai, je t'ai suivi, oui.
Tu voulais voir si Georges et moi, on était en train de s'enfiler comme des lapins ?
Mais quoi ? Mais pas du tout, c'est juste...
Quoi ? C'est quoi ?
Mais c'est rien, rien, je te dis, rien !
Oh non, c'est pas le moment.
Je m'en fous complètement, mais pourquoi tu lui donnes pas ton portable à cette pute ? Qu'au moins je puisse dormir ?
Je le lui ai donné.
Aimer, boire et chanter, c'est le dernier film d'Alain René, le tout dernier pour le coup, puisqu'il vient de casser sa pipe à l'âge de 92 ans. Alors aurait-on autant parlé de ce film sinon ? La question, la terrible question est posée. Alain René, c'était le réalisateur le plus jouette du cinéma français, comme on dit en bon belge, le plus espiègle, le plus malicieux, comme le sont souvent les vieux. Hein. Avec Aimer, boire et chanter, il fait dans les purs, dans le minimalisme, jusqu'à tomber dans le théâtre filmé. C'est d'ailleurs un vrai vaudeville, sauf qu'ici les portes ne claquent pas, puisqu'il n'y en a pas. Le décor est composé de bandes de papier, enfin j'imagine que c'est censé représenter
de bleu
du papier.
Chapeau de,
voilà.
De respect.
Et de... Non, mais je veux dire les grandes bandes, les flip-flops comme à la
oui,
piscine.
Oui, tout à fait,
là.
C'est du faux.
Voilà.
Olivier n'a pas vu le film.
Voilà.
Ah oui, c'est vrai,
Je suis outré, mais j'aime
mais
pas.
Mais il a un avis.
Tout ça, c'est une mise en abîme, hein, puisque la pièce parle d'une pièce, justement, celle qu'une bande de copains vieillissants doivent jouer avec George, leur ami condamné par un cancer. Tout cela est assez désuet, il y a beaucoup d'options de mise en scène qui n'ont pas de sens et aucune utilité, mais ça ne manque pas d'un certain charme, et surtout, c'est porté par quelques comédiens assez impressionnants, pas tous. Moi, j'épinglerai le couple joué par Caroline Silol et Michel Villermoz. Je ne sais pas comment on prononce ce nom.
Villermoz.
On prononce le Z à la fin ou pas ?
La comédie française.
Absolument. Alors, le chef, tant que tu as la parole, est-ce que tu es plutôt client d'Alain René ? D'habitude ?
Alors, je suis assez client dans l'absolu, avec des hauts et des bas, mais celui-ci en particulier m'a pas mal séduit. Je trouve qu'on retrouve toujours ce côté innovant chez René, qui, malgré son grand âge, réussit jusqu'au bout à nous surprendre. Sans nécessairement complètement rénover son cinéma, puisque ici on retrouve des accents de Smoking,
No Smoking. Ouais.
D'ailleurs, c'est une adaptation aussi
du même
dramaturge, Alan Ayckbourn. Mais il y a quelque chose comme ça, toujours de réjouissant, de frais dans l'innovation, dans cet entêtement à aller à l'encontre des standards et des modes dans le cinéma. Il continue son petit bonhomme de chemin. Alors forcément, c'est pas toujours il se renouvelle pas toujours énormément, mais ça on pourrait faire le même reproche à Woody Allen. En attendant, on parle toujours d'un Woody Allen comme on parle toujours d'un René. Il y a toujours quelque chose à en dire, il y a toujours quelque chose de piquant. Et ici en particulier, je trouve que cet aspect, le mélange qui fait des genres, est particulièrement réussi entre le théâtre, le cinéma et la bande dessinée. Cette alchimie entre les trois se fait de manière très naturelle.
Mais explique un peu le côté BD de la chose.
Alors, le côté BD, il vient un petit peu rehausser la sauce, qui en effet est très, très, très minimaliste, très théâtral.
Donc, il y a des décors dessinés.
Voilà,
par
donc
Blech.
On a des petits plans, séquences où on voit une voiture dans la campagne anglaise et on arrive dans un lieu, puisqu'il y a trois ou quatre lieux où se passe l'ensemble du film. Et chaque fois en transition entre les images filmées et ben, le huis clos très théâtral entre les acteurs, il y a une image, un dessin de Blutch qui vient s'intégrer, qui montre le lieu où on se trouve. Quelque part, c'est un petit peu redondant par rapport à ce qu'on voit, mais c'est un petit détail qui vient tout de suite donner une dimension et qui vient titiller l'imagination par le prisme de la bande dessinée. Là où on serait un petit peu peut-être resterait sur notre fin avec juste le décor hyper théâtral, avec, comme tu disais, uniquement pour tout décor d'un jardin ou d'une
mobilier
pièce
de jardin,
intérieure,
oui.
Un mobilier de jardin avec deux, trois banderoles qui pendent avec un semblant de dessin, de façade dessus. Et donc, ces petits détails suffisent à titiller l'imagination, et d'ailleurs, en matière de titillage d'imagination, il est très fort parce que pour moi, l'un des grands, une grosse réussite de ce film, c'est qu'il utilise un outil ou un artifice qui est anti-cinéma, c'est qu'il ne montre pas un des personnages principaux.
Voilà, on ne le voit jamais.
Et ça, c'est le George en question, George Reilly. Et ça, je trouve que c'est vraiment typiquement un argument très littéraire, puisque forcément dans la littérature, on peut parler de quelqu'un, mais on ne le voit pas. Et ici, il utilise ça et il en fait vraiment un élément clé du film. Qui excite l'imagination, et tout ce qui tourne autour définit en creux le personnage. Mais c'est très, très excitant. Enfin, ça fait partie, je trouve, d'un des ingrédients très réussis.
Il y a un côté en entendant Godot, en fait. Hein.
Oui, complètement.
C'est un autre film.
Complètement. Mais donc, qui est très théâtral aussi, finalement.
Oui, il assume ça, ce côté hyper théâtral qu'on retrouve quand même dans beaucoup de ses films.
Mais ça, on ne le doit pas à lui, on doit ça à Lan Eggborn.
Pas l'utilisation de la BD, ça.
Non, pas du tout, mais l'absence du personnage principal.
Exactement, même
avec Flush.
Avec Flush, exactement.
Tout à fait.
L'absence du personnage principal, ça, j'imagine que c'était préexistant à son scénario.
Oui, sauf que quand tu lis, oui, dans la pièce de théâtre, ouais. On peut imaginer, tout à fait. Mais ici, il y a un côté aussi qui fait le charme, c'est qu'on est un peu dans un hybride culturel, c'est-à-dire qu'il y a un côté Marivaux, mais arrosé de scotch, quoi. Donc, c'est du Marivaux, vraiment la comédie, mais transposé dans un univers d'humour un peu british, avec tout le côté plus piquant qu'on peut avoir de cet environnement et de cette culture-là.
Oui, je suis assez d'accord avec toi.
Eh bien,
c'est rare, donc je le souligne.
C'était donc le 28e épisode.
Nico, je ne te soupçonne pas d'être fan d'Alain René, je ne sais pas pourquoi.
Je suis mort fan d'Alain René, en fait. Je pense qu'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, c'est l'année dernière à Marianne Bad.
Ah oui.
Et je suis un peu moins fan de la dernière partie de son œuvre.
Il était
dire.
Moins drôle quand même à l'époque.
Il était moins drôle, mais il était quand même vraiment très fort. Mmh. Et il était déjà à l'époque dans l'hybridation, si pas des genres, en tout cas des formes, puisqu'il y avait déjà un mélange de théâtre et de cinéma. Et il écrivait aussi avec les auteurs du nouveau roman, donc Marguerite Duras pour Hiroshima, mon amour, et Alain Robbe-Grillet pour l'année dernière, Marianne Bad. Et c'est vrai que ce mélange des formes et ce mélange des genres chez lui, ça amène... Même si effectivement il y a un côté un peu vaudeville à l'ancienne, un côté très moderne dans son cinéma, qui se remarque aussi ici, par exemple, dans ces plans où il isole les visages des acteurs sur des fonds.
Oui, alors ça, j'ai
rayurés.
Pas compris. J'ai pas compris le sens de ça. Quelqu'un peut me l'expliquer ?
Le sens, en fait.
Surtout qu'ils sont très mal détourés, ils ont vraiment un problème de graphisme. C'est un peu le graphisme d'atelier protégé.
Tu as reconnu le trait de Blutch derrière ?
Mais oui, évidemment, ce quadrillage. Oh là là, quel génie !
Mais je suis pas sûr que ça doit faire sens. On peut se dire, à un moment, on peut se dire que c'est une manière de stabiloter des moments film
ouais.
En
ouais,
disant
y a de ça, je pense.
C'est des moments un peu importants et alors on va isoler le personnage et on va mettre l'accent sur ce qu'il dit à ce moment-là. Mais on peut se dire simplement aussi, ça rejoint ce que disait Laurent, que c'est simplement une manière de titiller le spectateur, d'inventer un peu un langage comme ça.
De le sortir de sa zone de confort
voilà,
tout
ouais,
d'un coup
comme cette taupe qu'on voit apparaître
voilà,
et disparaître
ouais.
Sans aucun qu'une espèce d'explication.
Ah, voilà. C'est la taupe, pour moi, c'est lui, quoi.
Oui,
c'est lui qui
va
l'au-delà, presque oui. Vient un petit peu voir, mais enfin bon...
Mais si, ouais, complètement. Mais ça amène quelque chose, si pas une étrangeté, ce serait peut-être un peu fort, mais en tout cas, quelque chose d'un peu bizarre dans le film, et qui est plus de l'ordre de la sensation que du sens, peut-être. Enfin, C'est ça qui est intéressant aussi. Mm-hmm. Après, je trouve que dans le film, du sens, il y en a beaucoup aussi. Enfin, on a un peu l'impression que c'est une sorte de... Le film serait une sorte de manuel du bien-vivre, sans que ce soit jamais sentencieux ou moralisateur. Enfin, en gros, il donne l'ABC du... Ouais, du bien-vivre, quoi. Donc A pour aimer, B pour boire et C pour chanter. Mmh. Et... Et donc c'est aimer, boire et chanter qui reprend dans une chanson des années 30, hein, de George Steele. Mmh. J'ai noté d'ailleurs.
C'était le générique de fin d'ailleurs.
Sachons aimer, boire et chanter, c'est notre raison d'exister. Qui est une chanson des années 30. René, il cultive vraiment une fascination pour les années 30. Enfin, il avait déjà exploré ça dans Stavisky dans les années 70 avec Belmondo. Et il met plein d'éléments, je trouve, signifiants dans son film. Par exemple, dans la maison de Sabine Azéma et Hippolyte Girardot, il y a toutes ces horloges qui se dérèglent. C'est un peu une manière de dire que, et pour reprendre le titre d'un de ses autres films qui était Cœur, de dire qu'un peu que nos cœurs sont des sortes de mécaniques fragiles qui se dérèglent comme ça.
Ah, moi je voyais la fuite du temps.
Mais ça peut être ça aussi, et qui s'arrête aussi à un moment, puisque le personnage est condamné à mort. Enfin, il y a plein de choses comme ça que je trouve assez intéressantes, où il joue d'un côté sur les sensations et des choses qui sont peut-être moins rattachées à du signifiant, et des choses comme ça où il parle vraiment de choses assez profondes sur un ton léger, je trouve ça assez
et notamment assez fort. De la mort en particulier, qui est évidemment ici en filigrane, et qu'on ne peut pas ne pas rattacher à son grand âge et à ce qui lui est arrivé juste après. C'est quand même assez fascinant de voir comment il a mis un peu en abîme sa propre existence sous la forme de ce testament, avec des thèmes qui étaient déjà abordés dans « Vous n'avez encore rien vu » le précédent, moi j'avais un peu moins aimé. Ouais. Mais voilà, et c'est quand même une force de se confronter à ce qui nous attend comme ça, et puis avec une scène finale où qui est son propre enterrement quasiment, quoi. Donc c'est assez fascinant, mais comme disait Nico, toujours avec une légèreté, avec pas mal d'ironie, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même tout ce qui pourrait être lourd et qui pourrait être pesant, il arrive à toujours le rendre léger par la grâce, entre autres, de sa troupe d'acteurs qui y apportent, enfin, qui sont clairement dans son univers, complètement dedans, et qui se laissent aller à sa fantaisie, quoi. C'est ça qui est assez génial.
Par Hippolyte Girardot, qui est un peu neutre, en fait.
Non, mais il a une horloge dans le cul, hein.
C'est vrai.
C'est vrai que son personnage est un peu neutre, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'autodérision, jusque dans cette scène où, que je trouve assez drôle quand même, où Sandrine Kiberlin et André Dussolier ressortent de la représentation de la pièce dans la pièce ou dans le film, et commencent à critiquer le jeu de chacun des acteurs, et on a l'impression qu'ils parlent vraiment des acteurs du film, en fait.
Oui. Et elle est bien, Sandrine Kiberlin. C'est la première fois qu'elle jouait chez René, je la trouve très subtile, en fait, beaucoup plus que d'habitude.
C'est vrai, ouais, elle est bien.
C'est son année à Kimberley, en tout cas. Après son César pour la meilleure actrice, un peu surprenant.
Ouais. C'est pour 9 mois ferme. Est-ce qu'on a aimé ça, 9 mois ferme?
On n'a pas vu.
Je suis pas sûr
que c'était un rôle à César, comme on dit.
Non.
Oh, le film, ça allait, mais c'était pas.
Un peu bourrin, quand même, non?
Oui, mais ça fait partie de la patte face à un autre film.
C'est l'hystérie à la Dupontel.
Voilà, exactement. C'est un film de Dupontel.
Mais peut-être moins agaçante qu'il ne l'a déjà été par le passé, je trouve.
Bon, bien, on va à côté. Ce film aimait boire et chanter. Moi, je lui mets 7 sur 10. Je lui aurais bien mis 8, mais la personne qui regardait le film en même temps que moi s'est endormie. Donc, voilà.
Ça dépend.
Par compassion, j'ai redescendu. Oui, c'était ma grand-mère de 96 ans. Nico ?
Entre 7 et 8, je dirais que c'est un grand petit film.
Oui, voilà. Non, toi, tu
moi, je
n'ai rien,
je me tais, moi.
Oui, voilà. Et Laurent ?
Oui, moi, je vais aller jusqu'à 8. C'est quand même le dernier qu'on pourra côté, donc je suis généreux.
C'est vrai. Salut l'artiste. Et oui, je dois vous dire que dans les pages de Focus, Jean-François Pleguerre a aimé ce film beaucoup et a écrit avec Aimé boire et chanter Alain René signé un film en prise sur le temps qui passe au carrefour du cinéma, du théâtre et de la bande dessinée. Voilà, c'est un bon résumé. Cette vieille branche, James Ellroy est de retour avec un nouveau roman noir, Extorsion, un tout petit roman, très très court et tout à fait jouissif, où l'on suit un flic ripou à Los Angeles qui casse des gueules, qui règle des comptes, qui partouze et surtout qui organise un trafic d'informations dégradantes et décadentes à propos des stars de l'époque, ça se passe dans les années 50, et des casseroles destinées à alimenter les premiers journaux people vraiment trash aux États-Unis. Le livre débute au purgatoire avec l'examen de conscience de ce type tout à fait affreux et sa rencontre avec l'écrivain James Ellroy qui veut faire une série de sa vie. Extorsion, c'est 136 pages d'anecdotes fausses sur de vraies célébrités. Par exemple, Catherine Hepburn forniquerait avec des chiens.
Je savais qu'on allait retenir celle-là. Je le savais.
C'est
le plus choquant. Tu vois pourquoi Catherine Hepburn,
oui,
ça nous choque.
Oui, c'est affreux.
Balance sur Marilyn, sur des pages et des pages, sur tout le monde. Mais Catherine Hepburn,
c'est plutôt le chien, en fait, qui est affreux plutôt que Catherine. Hein. On lit donc pas vraiment le bouquin pour sa valeur patrimoniale, puisqu'il n'en a pas. D'ailleurs, Olivier, pourquoi lit-on ce bouquin, au fond?
Bah, tu l'as dit, c'est jouissif, c'est délicieusement pervers et donc agréable à lire, et c'est de l'excellent Elroy, basiquement. Donc, pour bien expliquer, tu l'as dit, c'est plus une nouvelle qu'un roman. Donc, ouais, c'est surtout un teasing.
Et ça se termine, il faut dire que ça se termine par les deux premiers chapitres du bouquin suivant.
Oui, on nous annonce déjà son prochain quatuor. Donc, en fait, l'événement annoncé par ce bouquin, c'est qu'en fait, Elroy a clôturé sa trilogie sur l'Amérique, son thriller très politique sur les années 60 aux États-Unis, qui était vraiment très politique. Et ici, il va revenir à Los Angeles, où il avait déjà écrit un quatuor, quatre romans qui ont fait date vraiment dans le roman contemporain et le polar, avec évidemment le Dahlia Noir et les Confidential, White Jazz, Le Grand Nulle Part. Et en fait, il revient à Los Angeles, il va retrouver ses personnages qui étaient dans ces romans-là, retrouver ces années-là un peu plus tôt, puisqu'il va reprendre le Los Angeles à partir des années 40 et l'attaque de Pearl Harbor. Et donc ici, c'est une commande. Donc clairement, il était ce week-end taquet des polars, on en parlera peut-être. Il assume complètement, ce livre est un livre de commande. Il est sur du velours, il écrit ça sans doute très vite.
Oui.
Ça fait un bien fou à ceux qui l'aiment bien d'avoir un bouquin de moins de 800 pages et de moins de 200 personnages. Donc c'est très light, c'est vraiment mineur dans sa bibliographie, mais c'est un des rares et un des premiers où il est drôle.
Oui, c'est vrai.
Il est très drôle, il est toujours féroce, mais il est très drôle sur lui-même. Il se traite de casse-couille, de vieil emmerdeur, etc.
Mal habillé.
Voilà, ce qu'il adore faire dans ses interviews aussi. Donc, il est très vrai là-dessus. Il faut expliquer que le personnage de Freddy Otash a existé. Donc, ce personnage d'ancien flic qui devient détective privé, qui va nourrir de ragots les feuilles de chou de l'époque, les premiers tabloïds qui s'appelaient Confidential. Confidential a existé, le personnage a existé, a rencontré Elroy. Il a été question, effectivement, de faire une série autour de ce personnage-là, une série qui ne s'est pas faite. Donc, comme toujours chez Elroy, il y a beaucoup de vrai dedans, beaucoup de...
Oui, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux.
C'est certain que la série, c'est plus d'actualité, parce qu'elle est toujours...
D'après ce qu'il m'a dit,
FX.
C'est abandonné.
Tu vois, FX, cette chaîne où il y a l'adaptation d'Elmore Leonard, là,
Justified. Tout à fait.
Ce qui fait sens, en fait. Mais
exactement. D'après ce qu'il m'a dit, c'est abandonné, en
d'accord.
Tout cas.
D'accord. Oui, parce que tu as rencontré...
Ah, voilà.
Yes, I met the Duke this weekend. Donc, pour expliquer, on vient de se tenir à Lyon un grand festival de polar qui s'appelle Quai du Polar, qui est le rendez-vous vraiment incontournable du roman, du thriller en France et en francophonie. Elroy était l'invité d'honneur et donc a été traité comme une post-star autour de ce bouquin relativement mineur, mais qui est complètement jouissif. Pour ceux qui n'ont pas envie de se taper un gros bouquin sur 3 mois, ce Elroy se lit en 3 jours
et on retrouve
tout ce qu'on aime chez cet auteur. Même
un trajet de Thalys, c'est passé en un trajet.
Voilà. Donc tu vois, ça va très vite. Effectivement, il y a ces deux chapitres qui viennent derrière. C'est un teasing qui se fait de plus en plus dans la littérature de mauvais genre. Je ne suis pas trop client de ce genre de principe, mais c'est vraiment vendu comme un préquel d'un prochain livre. Et donc voilà, on retrouve tout ce qu'on aime chez lui. Il y a ce côté réactionnaire, féroce, vicieux, méchant, avec un trait, il est machiste, raciste, sexiste, mais il est dans le ton qui était sans doute celui de l'époque, et des wasps de l'époque, des flics blancs à Los Angeles, donc sans doute très proche d'une certaine manière de vivre et de raconter, et son écriture reste vraiment prodigieuse. Même dans un roman mineur comme celui-ci, il met une claque à énormément d'auteurs, dans sa facilité, ça paraît tellement simple d'écrire comme ça, et c'est sans doute inatteignable pour beaucoup. Donc il faut lire, c'est vraiment, enfin, pour ceux qui l'ont lu, j'imagine qu'ici on a tous déjà lu les précédents Elroy, c'est vraiment une écriture très syncopée, très réduite,
hein,
où il joue sur la typo, il joue vraiment sur la mise en page. Tous les trucs littéraires, il les utilise vraiment pour son récit. Et donc voilà, celui-ci est léger, mais très efficace. Et ça redonne goût à Elroy, qui était quand même très ambigu, très prise de tête sur ses précédents bouquins. On sent qu'il revient à ses premières amours, qui est le polar pur et dur.
Et bref, parenthèse, deux petites questions. Ça ressemble à quoi le public du festival Quai des Polars? Et qu'est-ce que t'as raconté, James?
Alors, le public du Quai des Polars, si tu mets un t-shirt blanc, t'as l'impression d'avoir une grosse tache sur toi ou d'être tout nu.
Oui.
Parce que voilà, le dress code est plutôt dans le noir, c'est vraiment un public de fans. Il y a un petit côté bourgeoisie décadente qui est assez amusant et le milieu littéraire du mauvais genre et ce public-là. Et Elroy, voilà, pour le reste, c'est une pop star qui se conduit comme une pop star et qui dit ce qu'on attend de lui. Donc, il a été pris dans Il a fait les couvertures de Libé.
Oui, il dit que Dieu lui a commandé de n'écrire que des grands romans. Et...
Bah, disons que quand on lui pose des questions connes, il répond des trucs stupides. Donc il adore sortir des trucs comme ça.
Je suis
et parler
chacal.
Comme dans ses bouquins, je suis un réactionnaire. Il déteste tout ce qui est contemporain
Simon,
de toute façon.
Je suis un chacal.
Voilà, c'est un jeu qui fait, dès qu'il y a une caméra ou un micro, il va te jouer cet air-là.
Et dire qu'Obama ressemble à un lémurien.
On n'a pas trop parlé d'Obama cette fois-ci. Je pense qu'il a dérapé quelques fois. Ouais. Il faut bien comprendre aussi que Elroy a beaucoup plus de succès en Europe qu'aux États-Unis. Ici, il est considéré comme un demi-dieu de la littérature. Il est beaucoup plus confidentiel aux États-Unis. Et forcément, ce côté réactionnaire, très provocateur, où il faut bien expliquer que dans tous ses romans, ce sont que des personnages existants, des célébrités authentiques qui dézinguent à tout va. Et donc, on lui a beaucoup posé les questions autour d'Internet. Est-ce qu'on peut lire ce bouquin qui est une sorte d'ode au tabloïd comme un parallèle à Internet d'aujourd'hui? Il a dit, rien à foutre, l'Internet aujourd'hui c'est n'importe quoi, c'est les tapettes qui le font, donc c'est bien pire à l'époque. Et donc, il veut montrer que c'est pas le support qui est vraiment important, c'est que la manière de l'utiliser, et il s'impose comme celui qui est le plus trash des bons auteurs.
C'est dingue d'être aimé à ce point par son réactionnarisme.
Non, je crois qu'il est d'abord aimé pour son écriture, vraiment, il a imposé un style... Qui a
on a envie de lui donner une claque
auteurs.
Dans le dos, alors que si c'était un membre de notre famille qui
ah, partageait ce genre d'opinion. On s'est balancé du brodeur, c'était très sympa. Hein, mais
C'est parce qu'il il s'est créé quand même une sorte de personnage
complètement
très jouissif, jusque dans ses aspects les plus, si pas dégueulasses.
Je pense qu'il est sans doute profondément réactionnaire, a priori de droite, et il se définit pas comme un progressiste. Il est tourné vers le passé, et il a cette fascination pour la violence qui est typique des Américains et de cette littérature-là.
Bah, il dit qu'il ne comprend plus le monde dans lequel,
je crois que c'est le cas
aujourd'hui. Et il aurait rêvé de pouvoir vivre à une autre époque où les hommes étaient de vrais hommes, où
et les
valeurs
femmes
étaient bien
établies.
Oui, je crois qu'on n'aura jamais un roman contemporain d'Elroy. Je crois qu'il est incapable de le faire.
Mm-hmm. Oui.
Bah, c'est ça qui est assez fascinant. Mais enfin, tout ce qu'Olivier a dit, je crois qu'on peut qu'y adhérer.
Oui.
C'est vrai que ce style... Fait plaisir, quoi. Et c'est un puncher, hein. Je veux dire, sur un ring, c'est le gars qui, dès qu'il monte, il envoie des mandales dans tous les sens à l'autre, jusqu'au chaos définitif avant le gong. Et on peut qu'adhérer à cet univers, cette facilité, comme disait Olivier, de mettre tout ça en scène, avec aussi. Ce qui ressort un petit peu ici, enfin peut-être même un peu moins quand même que ses œuvres précédentes, c'est que les femmes ont toujours une place à part, soit sont des victimes, soit sont des héroïnes, et il y a toujours l'ombre de sa mère qui plane.
Son rapport aux femmes est très chelou.
Voilà.
C'est un écrivain à la sexualité contrariée, ça se sent, ça se voit dans sa manière d'écrire aussi. Hein, donc,
tout à fait, il l'assume, hein, il l'a dit plusieurs fois. Et ici, il balance sur Marilyn Monroe, etc., sur Bette Davis aussi, qui revient régulièrement, qui était déjà présent
sur
dans
Elizabeth Taylor.
Voilà, ils y passent tous, en gros.
Oui.
Tout Hollywood y est.
Les pédocs, James Dean. Qui est
oui, Marlon Brando, et cette fameuse photo. Ça, c'était vrai, pourtant. Hein.
Et l'épisode chez Liberace aussi. Quoi,
oui.
Tout à fait.
Par contre, moi, si je peux me permettre, j'ai trouvé ça quand même... Effectivement, c'est jubilatoire, mais c'est beaucoup plus light... Et
tout à fait,
plus
récréatif
que ce qu'il a fait avant, ce qui fait que bah, moi j'ai quand même eu un petit goût de trop peu.
Je comprends. Disons que ça donnait envie
c'est
de.
C'est presque gentil, quoi.
Enfin, oui, complètement.
Bon.
C'est du velours pour lui. Je pense qu'il écrit ça pratiquement.
Pour se détendre, je ne sais pas.
Il a, pour prendre un peu les sous, pour
répondre
à une commande.
En fait, ouais.
Je pense pas que paresseux, c'est un terme qui s'approche à Elroy. Je pense qu'il est dans la facilité. C'est fait pour accrocher le lecteur, pour renouveler peut-être un peu son lectorat, pour accrocher en 200 pages en disant vous aimez ceci. Le prochain que je vais vous balancer va vous scotcher.
Mais jusqu'au prétexte du bouquin, je trouve que le prétexte du bouquin est vraiment bidon. Enfin, cette histoire de mec qui arrive au purgatoire, qui doit confesser ses péchés et qui en appelle un plumitif qui est James Elroy lui-même, moi, ça m'a fait penser à Peplum d'Amélie Nothomb. Et franchement,
j'ai pas parlé d'Amélie
Nothomb, ça c'est limite comme référence et je trouve que ça vole pas plus haut sur le prétexte.
Mais ça, ce prétexte-là, je pense que lui-même est capable de dire que c'est n'importe quoi pour rentrer dans l'histoire de Freddy Otache et raconter une partie de ces années 50 et de ce personnage-là. Il assume tout à fait que c'est une nouvelle, que c'est une commande très légère et qu'il fait à peu près n'importe quoi pour démarrer et pour répondre à la demande.
Okay.
Moi, c'est
assumé, c'est pas pour ça que c'est bien, mais c'est assumé.
Ouais.
Moi, ça m'a pas trop dérangé parce que ça aurait pu être très, très vite ridicule de se placer comme ça au purgatoire, mais je trouve dans le préambule, il arrive quand même à l'emballer et à en faire un truc... voilà, assez réussi pour amorcer les pages qui vont suivre. Ce que je trouve un peu plus gênant, c'est en effet, c'est qu'il y a un coût éditorial, c'est que c'est quand même, comme tu disais, qu'une grosse nouvelle. On y rajoute deux chapitres pour arriver à un volume de pages, et puis on emballe le tout et on le fourgue. Moi, franchement, même si ça a l'air très alléchant, les deux chapitres, je préférais les lire dans le bouquin qui va sortir.
Oui,
voilà, c'est ce petit côté...
C'est pas une première, hein, ça commence à se développer, ce genre de choses.
Ça, je trouve, c'est un peu agaçant, et j'aurais préféré lire soit un recueil de nouvelles avec plusieurs nouvelles d'Elroy, mais comme ça, cet assemblage a un peu été rempli.
En plus,
pour faire
quand tu sais que tu vas lire que les deux premiers chapitres, surtout que ça se termine
c'est même pas les deux premiers.
Les deux premiers, il prend deux chapitres au hasard.
Le 4 et le 8e, je
crois. Oui, tu sais que ça sert à. Enfin, voilà, tu ne te dis pas, je vais me plonger.
Pour les fans, voilà, tu retrouves des noms, voilà, tu sais que ça va être avec Dudley Smith qui est. Le grand méchant de son quatuor de Hélé, qui est vraiment un personnage riche,
en fait, détestable. On trouve Dudley Smith, mais plus jeune.
Exactement.
Donc ça va se passer avant le premier quatuor.
Voilà, le premier quatuor se passait au début des années 50. Ici, on se retrouve dans les années 40, 10 ans plus tôt.
C'est ça, ouais.
Et ça va être plus dans une ambiance... Voilà, c'est ça le teasing fonctionne, parce qu'on est en train de parler de son prochain bouquin qui n'est même pas encore sorti, mais ce sera plus dans le milieu japonais de
Hélé. Ça, c'est intéressant. Il va révéler des choses qu'on ne connaît pas nécessairement sur le racisme anti-japonais.
Voilà, non, il y a vraiment un pan d'histoire assez sombre et lourd.
Tous les Japonais, parce qu'il y a une grosse communauté japonaise qui vivait à Los Angeles, ont été vraiment mal vus et
il y a eu des camps, c'était terrible. Et c'est de fait une histoire peu connue aux États-Unis.
Dans le deuxième chapitre qui révèle, là, on est dans une famille japonaise qui s'est fait visiblement ses coucous dans sa maison à Los Angeles, et c'est Dudley Smith qui arrive sur... En fait, moi, j'ai lu les deux chapitres, pas en me disant...
J'ai pas lu le deuxième, j'ai lu le premier, j'ai vu, puis je suis comme toi.
Dans une histoire, parce qu'effectivement, c'est difficile de rentrer dedans, si ce n'est le plaisir de retrouver certains personnages, à la fois du Quatuor de Los Angeles, mais aussi de Underworld USA,
Exactement.
De la trilogie qu'il a fait après. Mais par contre, moi, ça m'a carrément rassuré. J'ai lu les chapitres pour me rassurer et me dire, en fait, ils sont super bien écrits ces deux chapitres. Ça marche à fond parce que ça donne super envie.
On sent que son prochain bouquin va de nouveau être un grand roman qui va revenir plus dans sa tradition.
Il est prévu pour quand ce bouquin, on sait déjà.
Dans un an, c'est pas tout de suite, je pense. Il est pas encore sorti aux États-Unis.
Il affirme d'ailleurs que ce serait le meilleur.
Bon, il dit ça à tous ses bouquins. Chaque fois que j'ai vu, il a dit This is my best book. Et même ici, s'il dit que c'est une nouvelle sur commande, il dit que c'est quand même un excellent bouquin.
Peut-être juste pour rebondir ce que disait Nico, c'est vrai qu'il y a moins de souffle, peut-être parce qu'on est sur un personnage, une espèce de chronique d'un personnage, alors que dans la plupart de ses œuvres, ce sont des fresques.
Voilà, il y a des enjeux.
Où il y a la ville, il y a tout un monde derrière qui est croqué. Et c'est peut-être, du coup, ici, ça donne un peu cette impression d'être un peu plus chiche que ce qu'on a l'habitude de lire.
C'est vrai. Eh bien, on va clôturer là le chapitre James Ellroy. 8 sur 10 pour ce petit bouquin Extorsion pour ma part. Et toi, Nicolas Clément ?
Je vais mettre un tout petit 6.
Un tout petit 6,
oh, monsieur,
d'accord.
Non, moi je vais mettre un 8, j'ai pris du plaisir à lire. Vraiment.
Oui, et Laura ?
Oui, moi 7.
Et si vous aimez Ellroy, il faut absolument lire la BD adaptée du Dahlia Noir. Petite merveille, même une grande merveille graphique qui est parue chez Rivage Casterman Noir. On doit
prononcer
les trois mots.
Rivage Casterman, c'est une joint-venture entre l'éditeur littéraire et la BD.
Et qui a été co-scénarisée par Ellroy lui-même.
Il y a même Fincher dans le casting, qui avait travaillé sur une adaptation qui ne s'est pas faite, mais dont les storyboards ont servi à la bande dessinée.
Oh, quelle érudition, Olivier. On a bien fait de te faire venir.
Cowboys and Indians. You pretend to be the Indians, huh?
I am an Indian.
That's just what the old people around here say, make themselves feel important.
Whole tribe's up in arms, you know, starting to make some noise.
You don't care about anybody. You need something. And you don't care how you get it.
I could say the same about you.
Gee, my gun's missing.
Do you know what this means?
The Red Road, c'est une mini-série en 6 épisodes produite et diffusée par Sundance Channel. Son dernier volet vient d'être diffusé aux États-Unis. La série était très attendue puisqu'elle a été créée et scénarisée par un certain Aaron Guzikowski. Qui est-il ? Eh bien, c'est le scénariste du film Prisoner de Denis Villeneuve que le chef a adoré. Moi, j'ai pas aimé du tout, mais bon. Et ce type n'est pas du tout le seul nom ronflant en générique, puisque le premier épisode a été réalisé par James Gray, quand même. The Red Road, c'est un peu une histoire de cow-boy et d'indien dans une petite bourgade paumée du New Jersey. Harold est policier, sa femme Jean, qui est schizophrène, renverse en voiture un enfant de la communauté indienne. Dans celle-ci, il y a Philippe, un repris de justice, aussi fascinant qu'inquiétant, qui revient d'un long exil et qui avait été chassé de la ville à cause de Jean, justement, de Jean et d'Harold. Enfin, on apprendra plus tard pourquoi exactement, je ne vais pas vous spoiler. Et Philippe, qui fait mine de couvrir le couple, commence en fait à lui faire du chantage. Philippe, qui est joué par Jason Momoa, je ne sais pas comment on le prononce, hein, mais qui est cette espèce de montagne de chair à longue natte de...
Khal Drogo.
Voilà, de Game of Thrones. bon, voilà, je vous ai pitché tout ça, c'est bien plus compliqué que ça, mais c'est le meilleur résumé que je peux faire. J'ai trouvé ça pas mal du tout, alors je sais que vous pas, je suis un peu étonnée. Évidemment, quand on sort de Trou Détective, on ne peut trouver que l'ORS
peut-être
un peu médiocre, hein, on a tendance à être sévère, mais...
Oh, on pourrait reparler quand même du final de Trou Détective, qui n'est pas si satisfaisant que ça, je trouve.
Oui, mais bah, si tu le vois comme un polar, évidemment, mais ici aussi
reste mieux que Red Road, de toute façon.
Oui, bah oui, oui, ça, évidemment. Mais voilà, moi, je me dis, c'est un drame familial, un drame communautaire, un petit peu étouffant, comme ça, au pied des montagnes, qui crée une sorte de huis clos, dans une certaine moiteur. J'ai bien aimé ce décor, et puis j'ai bien aimé mater Jason aussi, je dois bien vous l'avouer, voilà, c'est un peu trivial, mais c'est comme ça. Nicolas Clément, tu as regardé et tu n'as pas aimé. Tu m'as dit que tu as essayé de regarder.
Non, j'ai tout regardé, regardé. Donc c'est 6 épisodes, hein, c'est pas oui. La mort. Ces 6 épisodes, on se demande un peu pourquoi c'est si long. Hein. Ben, moi, je trouve qu'un téléfilm, ça aurait été suffisant. Enfin, il dilue quand même beaucoup. Ben, c'est souvent le problème, on revient à chaque fois un peu avec les mêmes arguments. Hein. Mais je trouve pas ça honteux du tout, je trouve même pas ça mauvais du tout. Mais j'ai trouvé que c'était un peu, finalement, le minimum syndical de ce qu'on pouvait attendre d'une série en 2014.
D'une bonne série en 2014, parce qu'il y a tellement de merde, c'est quand même largement au-dessus du lot.
Bah non.
C'est un sous-top of the lake, pour prendre un autre.
Les autres productions Sundance, c'est quand même accro. En dessous.
Voilà. Oui, c'est vrai.
Donc il y avait Rectify avant et puis...
Voilà,
donc,
Top
y
of the Lake.
Rectify et Top of the Lake, c'est la troisième de Sundance Channel. J'ai trouvé que l'écriture était vraiment pas dingue. Non, enfin, je trouve que tout ce que Guzikowski a réussi avec Prisoner, s'il l'a raté, donc contrairement
à toi... Ah, tu as aussi aimé
Prisoner. Faut que je revoie ce film parce que je suis passé à côté. Quand ouais. Ça m'a laissé un peu froid.
C'est un film qui semble partagé. En fait.
Oui, tout à fait.
Bon, voilà.
Soit.
L'écriture, bof, les dialogues... Ça claque jamais, enfin, c'est vraiment pas très... Ouais. Les acteurs...
Oui, Jason est beau, mais c'est un peu tout ce qu'il a. Ouais,
mais il a pas toujours quelque chose à jouer, quoi.
Ouais, tu vois le flic, là, en fait, il a...
Oui, le flic, il a une vraie tête à claque.
Pendant 6 épisodes, il a 2 expressions à jouer. Ouais. Il a la colère et la surprise. Et alors, il joue la colère et la surprise exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il ouvre des très grands yeux et il plisse du front.
C'est vrai.
Ce type en est réduit pendant 6 heures à ouvrir des grands yeux.
Mais il joue un peu... C'est peut-être son rôle qui veut ça. Il veut jouer un peu l'américain de base, un peu teubé.
C'est ce qu'on lui demande. De fait, ça fait partie de son...
Il est pas très habité.
C'est un argument, ouais. C'est ce qu'on avait dit de Tom Cruise dans Eyes Wide Shut. Hein. Comme il doit jouer un type qui a une imagination quand même assez limitée, il imagine des fantasmes sexuels assez basiques, etc. Et forcément, il joue tout le temps en se tenant la tête entre les mains. Mais
j'y
crois moyen ici. J'ai trouvé que ça manquait vachement de souffle et d'enjeu. En fait, chaque fin d'épisode tombe complètement à plat, je trouve. Et ça, c'est quand même toujours un peu le signe que, surtout sur une mini-série, si à chaque fin d'épisode, on se dit « Ah, c'est
pas
fini. »
C'est pas faux.
C'est quand même qu'il n'y a pas vraiment... Ouais, donc, ils peuvent très bien jouer la carte de ne pas relancer, de ne pas être dans le climax, etc. Mais alors, je ne sais pas, la fin d'épisode, ça te laisse quand même toujours dans une sorte de suspension, etc. Mm-hmm. Où tu dis... Tu réfléchis un peu à ce que tu viens de voir, etc. Mm-hmm. Mais ici, ça... Voilà, c'est juste
mais
fini.
J'ai l'impression que même James Gray assume pas tellement parce que on
mais
n'en a pas
plus terrible,
tellement
pas
parlé.
Mais c'est pas terrible, j'ai pas senti sa patte. J'avoue que j'ai vu après que c'était lui qui avait fait le premier épisode, donc j'ai revu le premier épisode où, ok, tu vois des références, des manières de filmer, une sorte d'ambiance, mais ça n'apporte pas grand chose. C'était. Et pour rebondir sur ce que tu disais, moi, plus que bon, pas bon, je trouve que c'est surtout une série ratée, quoi. Il y a un bon pitch, cette idée de jouer sur la communauté indienne, c'est relativement rare dans les séries. Il y a des ressorts en termes de polar. De réalité socio-économique passionnante, parce qu'il faut bien comprendre que les Indiens ont des accords d'État, c'est des sortes d'État dans l'État par rapport à leur territoire, donc les Blancs ne peuvent pas y faire tout. Ici, c'est une communauté très white trash d'un côté, très blanche, contre cette communauté pauvre indienne. Il y a des polars.
C'est pas utilisé. Hein.
C'est pas utilisé.
C'est une espèce de prétexte, je trouve, d'alibi qui est utilisé. Et pour prendre, rebondir ce que vous disiez, c'est, moi j'ai un peu l'impression qu'il y a des pistes qui sont entrouvertes, mais qui ne sont pas exploitées, notamment celles des Indiens. Et je pense en particulier au rôle de l'avocate qui est jouée par Lisa Bonet, ouais. Qui aurait beaucoup plus pu être exploitée et qui apparaît là et puis qui disparaît, alors qu'il y avait une dimension.
Qui est la femme de l'acteur.
Hein, et qui est l'ex-femme de Lenny Kravitz.
Exactement.
Bon, voilà. Et qui jouait dans le Cosby Show, donc.
Oui, voilà.
Et dans Angel Heart. et dans Angel Heart, d'Alan Parker aussi.
Oui,
mais voilà, ce genre de personnage qui avait une dimension politique, qui pouvait amener un peu de répondant à ce niveau-là, rajouter une dimension, et qui n'est pas exploité, qui est abandonné complètement.
Ouais, c'est ça.
Voilà, et c'est un peu à l'avenant pour le reste. Et je trouve que les personnages sont quand même tous des personnages de second rôle, des seconds couteaux qu'on a vus dans des séries. Et je trouve que ça se sent un petit peu. Ils sont pas non plus, ils ont pas ce charisme, ce magnétisme. Avec parfois, notamment dans les scènes d'action, un côté, je trouve, années 80. Voilà, je trouve un petit peu. Ouais, je trouve pas ça très réussi à ce niveau-là, même si c'est pas déplaisant, mais c'est pas complètement abouti.
Et la fille qui joue Jean, qui s'appelle donc Julianne Nicholson, je la trouve assez bien en fait, et je trouve son personnage assez intéressant parce qu'il témoigne bien de la manière dont on peut souffrir, de la manière dont son entourage fait semblant que tout va bien. Elle vient d'une espèce de petite bourgeoisie locale et tous ses problèmes mentaux sont un peu
elle a des gros problèmes mentaux presque grotesques au début enfin
et à la fin aussi hein, d'ailleurs voilà. Quand elle entend des voix dans les bois
oui qu'elle se met à piquer une tête dans
mais oui il y a sans doute de ça, il y a sans doute une certaine vérité par rapport à comment on traite les problèmes dans ce genre de ce qui m'a énervé moi pour finir sur mon avis sur le feuilleton, c'est qu'on sent cette envie qui fonctionne au top of the league ou Rectify de casser les codes habituels des séries et des formats US de séries, mais parfois on utilise des codes parce qu'ils fonctionnent. Et à force de les enlever, de déconstruire une narration, un rythme, tu disais, les chutes, etc., si on en fait, c'est parce que c'est utile, que ça fonctionne et que ça accroche un peu. Et ici, après, c'est envie de les enlever, mais sans se demander pourquoi finalement on les utilise. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était. On a tant du Tony Lorman dans L'Envie, qui est un grand auteur de polar par rapport justement aux communautés indiennes, et on se retrouve jamais là-dedans, et on se retrouve dans cette impression de. Sundance quand tu zappes et tu tombes sur un feuilleton un peu cheap avec une mauvaise image et une heure du mat
mais c'est
avec
cheap.
Une image un peu presque sépia comme ça, un peu tristoun
d'ailleurs même le générique est cheap quoi.
Oui.
On est comme une époque où dans les séries télé on se casse la tête pour faire des beaux génériques etc. Et là ils ont mis un écran noir
et
une sorte de sale peinture rouge numérique qui vient se barbouiller dessus et ça s'appelle Red Road quoi.
C'est le sang des Indiens
mais bon, je suis globalement d'accord avec vous, mais moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de plaisir à prendre là-dedans. Je vois même m'avoue que j'avais hâte parfois de rentrer chez moi pour lancer l'épisode suivant.
Tu es très down tempo pour l'instant, je ne sais pas.
Voilà, c'est ça. Être
tu
down-tempo.
Passes tension.
Bon, quelque chose à ajouter, quelqu'un? Ou non, pas
tout
spécialement. Bon, d'accord. Eh bien, moi, je lui mets quand même 7 sur 10 à cette Red Road. Nico?
5.
Bon, Olivier? Oh, carrément. Et
oui,
Laurent?
5 aussi, je reste.
Pas gentil. Enfin, on termine le programme imposé avec un disque, une version améliorée. Ah, il y a quelqu'un qui rit déjà. Une version améliorée de La Tristesse de Peter, un jeune Québécois qui chante le spleen de sa génération. Ça fait un moment que son album est sorti, mais il n'en fait la promo par-delà les océans que maintenant. Peter, c'est un type rasé sur les côtés, à t-shirt à motif géométrique et à moue boudeuse. On n'est pas content, il est triste.
Rasé sur les côtés,
c'est... Oui, beau, avec une grande mèche. Là,
ah,
là,
voilà. Il est jeune, beau, mais malheureux.
Oui, oui, on dirait un peu le cousin de Xavier Dolan, hein, la tête à claque la plus douée du cinéma québécois. Parce que non, ce n'est pas Denis Villeneuve, c'est Xavier Dolan. Beaucoup, beaucoup de poses donc chez Peter, mais aussi des jolies chansons. Moi, j'aime bien une version améliorée de La Tristesse qui mêle électro et saxo. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas être trop réfractaire à ceux qu'on appelle les hipsters de merde, puisque Peter est un hipster de merde.
C'est un bon hipster de merde.
Voilà, voilà. Laurent, puisque c'est toi qui nous as mis cet hipster de merde à l'agenda, qu'est-ce que tu penses de ce disque ?
Je sors mon bouclier.
Oui.
C'est pas ce point-là.
Non.
Pareil, moi, du plaisir, même si c'est mineur.
Ouais,
quoi.
Voilà. Alors, on peut pas dire que c'est un album qui va marquer les annales de la musique pop-rock, mais je trouve qu'il y a une certaine
peut-être
fraîcheur. Je trouve qu'il capte bien quelque chose de son temps, de cette jeunesse qui balance entre ennui et envie d'absolu comme ça, et qu'il arrive un peu à mêler tout ça sans phare et sans tabou. C'est-à-dire, il cherche pas. Alors tu parles d'hipster et tout, qui sont beaucoup dans la pose, ok, mais il assume quand même une sensibilité et des défauts, etc., qui le mettent un petit peu au-dessus de cette mêlée de hipsters, toujours très attentifs aux moindres faits et gestes. Et je trouve que ce mélange de romantisme pop et synthétique et de facettes plus sombres, avec un spleen qui ressort notamment dans des textes et qui est très cinématographique, je trouve, fonctionne bien. Moi, il y a des images qui me viennent dans la plupart des chansons. Alors, c'est de temps en temps des univers un peu de bled américain, comme ça, de jeunes qui font les 400 coups, ou alors parfois c'est des univers plus urbains avec néon cru et fin de fête un peu imbibé, tout ça. Je trouve, voilà, il arrive à rendre ça, et je trouve que c'est déjà beaucoup.
C'est vrai.
Avec des textes qui sont pas cons, voilà, et qui transposent ce mal-être, cette élégance mélancolique que l'on retrouve chez ce personnage. Il m'a l'air assez sincère dans la démarche, même si c'est vrai que parfois le côté Stéphane Echer dans certaines chansons, voilà, est peut-être parfois un peu agaçant. Mais je trouve que sur l'ensemble, il y a quelque chose, voilà, des mélodies accrocheuses, une étrangeté comme ça dans le chant qui dépasse la pose et le côté purement artificiel.
Moi, je visualise un espèce de phasme en train de se brûler les ailes dans une lampe halogène, tu vois.
Ouais, un peu ça, mais voilà, et les références cinématographiques, pour rebondir là-dessus, je trouve, moi, je crois qu'il avait envisagé à un moment de faire des études de ciné, fan de Kubrick et tout, et le clip, ça boucle la boucle, le clip.
Il est bien, ce clip, hein.
C'est une espèce de pastiche de Gounod, de Harmony Korine, dont il est fan par ailleurs, où on retrouve un peu ces jeunes qui glandent en...
C'est pas surprenant.
Voilà, avec le chapeau lapin rose d'un jeune qui se balade comme ça, un peu, on se demande où il va. Enfin, voilà, un peu cet ennui.
Civilisé l'errance.
Voilà, exactement. Et je trouve que ça est plutôt bien rendu dans le truc, avec des mélodies qui sont assez prenantes, quoi.
Absolument, Olivier.
Je peux être d'accord avec tout ce que le chef vient de dire. Il y a des morceaux qui fonctionnent très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le morceau Carousel. Voilà, celui-là, il m'est resté dans la tête. Je trouve qu'il est... C'est son plus pop. C'est vraiment le format FN qui peut faire de lui...
C'est, je pense, son deuxième single. C'est ça,
je ne sais pas. C'est le deuxième sur l'album. Ouais, je crois qu'il vient juste après le titre, qui est parfait. C'est effectivement une version améliorée de La Tristesse. C'est bien trouvé. C'est très cohérent par rapport au cours d'un album qui est très pop, qui est très pop synthétique. Moi, j'ai juste un problème. C'est après deux ou trois morceaux, ça me gave. Voilà, il y en a... J'arrive pas à écouter plus qu'un single. À la radio, ça me plairait très bien. Sur un iPod mélangé à tout, ça m'irait. Sur un album, ça me gave très vite. Ou je trouve, moi, personnellement, qu'il ne va jamais... C'est très bien fait. Vraiment, c'est très efficace. Mais ça ne va jamais au-delà de la posture. Tout est posture. Mm-hmm. Dans son truc, son morceau instrumental barbesse, mais c'est complètement inutile, complètement vain. C'est mettre une petite ambiance jazzy, parce que, voilà, c'est bien d'être dans ce moment-là. Et alors... Voilà, moi j'apprends avec les mecs de 22 ans, beaux, avec les dents blanches, qui ont le spleen et la mélancolie, c'est bon. Foutre un coup de pied au cul et bon, c'est bon. Ben, voilà, ça m'énerve. Ça,
mais
on
mais
est
parce
vraiment
que t'es un vieux con,
là.
Ça
existe aussi. Enfin, je veux dire, c'est...
Non, mais on, ça,
il a
ça
le droit.
Tout le temps.
Il
s'est assumé, tu vois, c'est bon. Okay.
Va travailler.
Mais il n'a même pas eu une verrue, ce gars. Il n'a même pas eu d'acné dans son adolescence.
Pourtant,
enfin,
pourtant il vient d'un bled du nord du Canada. Enfin,
bon, bah, tant pis pour lui, mais bon, je veux dire ici.
Il n'a pas non plus un passif.
Tu vois que Gainsbourg se plaignait de son physique, ok, et se disent que la vie est dure, mais bordel, t'as vu sa tête, quoi. Allez,
oui, on va arrêter. Bah.
On l'a peut-être frappé à coup de crosse parce qu'il était trop beau dans son bled.
Mais peut-être, ça se voit pas, il n'a pas le nez cassant.
C'est peut-être le Édouard Louis de son bled.
Voilà, donc il y a un côté cœur de pirate aussi. Il a travaillé en duo, je crois, j'avais vu.
Ouais, sur l'album.
Je trouve que de temps en temps, il y a des chansons.
On a tous fait des erreurs.
Dans sa litanie, dans sa manière de chanter, je trouve qu'il y a un petit côté cœur de pirate avec.
Ouais, mais c'est
un semblant de coucougnette, tu es quand même sans poil parce que ça reste très propre. Donc.
Avec laquelle il faisait un duo d'ailleurs sur son premier album, c'est ça.
Oui,
ouais.
Oui.
C'est ça que j'avais vu. Donc tu sens cette filiation. Donc voilà, je trouve qu'il y a des morceaux très bons. Je pense que ça peut marquer au niveau de la pop, ça peut très bien fonctionner en France. De fait, c'est une très bonne photographie d'une époque, d'une génération, et ça peut être un album phare sans doute pour ces gens-là. Je pense qu'il y a des morceaux qui vont marcher à fond en FM, comme je disais, Carousel, d'autres. Mais voilà, après 2 ou 3, moi ça me gaffe très vite et il est temps qu'il ait 30 ans ce garçon.
Et toi, oui.
Des rides.
Mais toi, Nico,
qui souffre un peu.
Qui rigolait à l'évocation simplement du nom de Peter.
Non, je rigolais parce que tu as employé le mot imposé.
Ah oui, d'accord.
C'était plutôt dans ce sens-là. Mais oui, je rejoins Olivier aussi, c'est vrai que sur la longueur, moi dans les. Bon, c'est pas du tout mon truc, hein, donc celle-là, on rentre vraiment
trop
dans l'arbitraire.
Propre.
Non, c'est pas ça, mais j'écoute ça, ça me parle pas simplement. Mais il y a moi c'est sa voix en fait, hein. Il a une voix hyper monocorde et plaintive comme ça, j'ai l'impression qu'il y a... De temps en temps il monte un peu dans les aigus, mais il monte toujours un peu pareil dans les aigus. Enfin, c'est vrai que sur 2-3 morceaux ça va, mais sur tout un disque à un moment on a l'impression que c'est toujours
t'as envie de taper.
Tout à fait, ça, à un moment c'est bien énervant.
Pour qu'il arrête.
Couper, quoi.
Et alors, on parlait de texte tout à l'heure, c'est vrai que par moment c'est bien tapé, mais par moment, et c'est un peu aussi, c'est ingrat des fois d'écrire en français. Parce que voilà, c'est pas toujours facile de faire sonner les choses, mais il y a une chanson qui s'appelle Réverbère, où le leitmotiv c'est je me sens seul dans la nuit comme un réverbère. Bon, ça c'est vrai
c'est
que.
Un Québécois aussi.
C'est genre des problèmes avec la langue.
Ça me parle pas des masses. Donc c'est vrai que les textes romantico-poétiques, comme ça, moyen. Et alors, c'est vrai que la musique, bon, c'est très variété. Alors, c'est. Variété, c'est pas non plus. C'est
bien
pas un
produit,
gros mot
vraiment,
de dire variété.
Ceux qui aiment la pop synthétique.
Bah, c'est des accords plaqués de synthé baveux comme ça.
Très binaire, hein. C'est
Et des fois, carrément, il ose, on peut dire il ose, c'est bien, mais il met des saxos.
Ouais, mais moi je trouve ça justement intéressant.
La fin du morceau de titre, là, du morceau d'ouverture, mais j'ai l'impression que c'est le saxo de Joel Taxi. Là, mais c'est pas grave,
Joel
Taxi c'est pas mal, etc. Mais. Ah ouais,
il ose quand même des trucs, quoi. Enfin, c'est le contre-pied un peu de truc un peu trop léché.
C'est comme on disait tout à l'heure, on peut dire que c'est assumé, mais c'est vrai que c'est pas pour autant, en tout cas, que moi ça me parle.
Bah, je suis assez d'accord que ça fonctionne, enfin, et c'est aussi typique de cette génération, ça fonctionne plus sous forme de single, c'est des morceaux que tu mets en temps comme ça de temps en temps. De les prendre tous en un coup, c'est peut-être un peu lourd, mais voilà, par petites tranches, et j'ai l'impression que c'est un peu conçu comme ça aussi, c'est des petits instants. Hein.
Ouais,
et comme souvent à cet âge-là, c'est des petits instants qui souvent
âge,
se répètent et
22,
qui te...
Je pense pas ça, il a
22 ans.
Je crois qu'il est jeune. Hein.
Bon, continue à parler, je vais sur Wikipédia, regarde.
Je pense qu'il a 22 ans. Moi, c'est ce côté, voilà, je suis mélancolique à 22 ans, je comprends pas. C'est un truc qui me dépasse.
Pourquoi pas, quoi.
Non, je comprends pas, je comprends pas.
Ouais, aujourd'hui, ça m'étonne pas, quoi. Je veux dire, je pense que c'est beaucoup plus partagé par cette génération.
Oui, mais on est dans la posture du spleen et ce romantisme qu'on se fait à l'idée que c'était mieux avant, alors que t'as à peine 3 poils sur la tête.
Mais moi, je sais pas. Surtout pour rebondir, rajouter peut-être quelque chose par rapport à ça, je trouve qu'il y a chez lui aussi. Il y a une dimension qui dépasse un peu les genres. Alors, les genres musicaux, mais même les genres sexués. Je trouve qu'il y a une représentation un petit peu qu'on peut retrouver chez des Hercule and Love Affairs et tout ça, où il va au-delà d'une espèce de sexualité bien définie.
Il est très métrosexuel dans certaines de ses chansons.
Et je trouve que ça
ans.
Aussi...
28 ans.
Il a même 30 ans.
Ah, mais il a aucune excuse, alors. C'est incroyable.
Ce garçon vieillit très vite.
C'est hallucinant. Bon, ça a été photoshopé, alors. C'est très...
Voilà.
La mélancolie préserve.
Mais, c'est incroyable, ma montre s'écroule.
Bon, mais moi je lui mets 6 sur 10 à cet album, cette version améliorée de la tristesse.
Oui, moi je mettais 4, notamment pour le très beau gilet qu'il arbore.
Il a un beau gilet. Ouais.
C'est gentil de ta part.
Bon, moi je mets 6 parce que je reconnais effectivement qu'il y a des morceaux très générationnels qui vont fonctionner.
D'accord, et le chef ?
Eh bien, moi je vais pousser jusqu'à 7.
Eh bien, c'est très gentil de ta part. Focus Store. Et on va terminer cette émission comme toujours avec le tour de nos coups de cœur du moment. Moi, ça ira très vite. C'est un concert. C'était un concert. Celui du Californien Nick Waterhouse. C'était dimanche au Botanique à Bruxelles. C'était plein de gomina, de cuivre et de pédales wah-wah. Nick Waterhouse qui a sorti au mois de mars, fin mars, un album complètement régressif, connoté 50s, avec des roues flaquettes, des bananes, du gel dans les cheveux, qui a été enregistré en analogique, sans machine. C'était important. Il s'appelle Holy, cet album. Il est très, très, très recommandable. Ce concert était vraiment, vraiment super chouette, avec un public de sosie. Tout le monde était habillé, coiffé, comme dans les années 50. Voilà.
Et
se... ouais, c'est ça. Il se comportait comme tel. C'était assez drôle. Et ouais, c'est vraiment bien. Il y a une chanson qui s'appelle Someplace, qui est un peu, qui fait même limite penser à comment s'appelle ce groupe. Je vais.
On te laisse ce blanc.
Ce groupe Café Brother. L'album Brother. Lonely Boy, merde, je retombe plus sur ce nom.
I'm a lonely boy.
Mais oui,
mais oui, Black Keys.
Les Black Keys, ouais. Voilà. Ouais. Ouh, vous imaginez, je tombe même plus.
Tu laisses, ce blanc sur la bande, hein, pas le montage. Hein,
non, bien sûr, je suis humaine, je suis coupable d'erreur de temps en temps.
Petit moment gênant.
Nicolas Clément.
Mais je voulais parler d'un concert aussi, qui fera sans doute un peu moins twisté, mais qui n'a pas encore eu lieu pour le coup. La semaine prochaine, il y a un groupe français qui vient en Belgique qui s'appelle Ponyhawks. Qui a sorti un album l'année dernière, son troisième, qui s'appelait State of War, et qui est un groupe assez unique en son genre, qui fête ses 10 ans, en fait, je pense, pour l'occasion, et qui a un peu le don de se renouveler à chaque album. C'est-à-dire que son dernier album l'année dernière, en fait, c'est un peu l'album que David Bowie aurait pu sortir s'il avait décidé de revenir avec un bon disque.
Ah, enfin, tu parles d'or.
Voilà. Et donc, ouais, voilà, c'était une sorte de disque de David Bowie, mais réussi. Enfin, un disque de David Bowie des années 70, quoi. C'est assez génial. Et avant ça, ils ont fait des trucs très différents, très pop, des trucs plus synthétiques. C'est un groupe qui, en concert, le chic de foutre le brin, vraiment, de mettre le bon son dans la salle.
On en sort en sang. Je sais que tu aimes bien ça, les concerts, non. Quand on sort ensanglanté.
On en sort en tout cas en sueur. On peut probablement aussi suer du sang, vraiment, si on se donne beaucoup. Et donc, ce groupe sera le 18 avril à la Maison du Peuple à Bruxelles, donc à Saint-Gilles.
Ah oui, pourtant, c'est quand même un groupe de grande, grande envergure.
Mais écoute,
semble.
Bizarrement,
c'est une petite salle.
Je crois que c'est un groupe qui est fort aimé par la presse, mais qui est pas tellement...
En fait,
ça fait genre
étonnant.
Un an qu'ils ont sorti un disque et ils sont pas encore venus une seule fois le défendre en Belgique. Et donc là, c'est gratuit à la Maison du Peuple à Bruxelles et ils jouent aussi à l'Alhambra, cette nouvelle salle à Mons, le lendemain, le
D'accord.
19.
Okay.
Voilà, Ponyhawks.
Merci Nico. Olivier, ton coup de cœur.
Je le fais faire très vite parce que c'est aussi de la musique pour une fois. Je vais des BD, mais voilà, c'est Kevin, notre ami qui s'occupe du web et rocker par essence, qui nous a fait découvrir le dernier Liars. Liars, c'est un groupe new-yorkais qui vient du post-punk, qui a un groupe qui a 10-12 ans, qui vient du post-punk, qui est passé par le rock expérimental et maintenant qui a pris un virage électro
ah
presque
ouais.
électropop, et c'est une tuerie, c'est incroyable. Donc
c'est
l'album qui vient de sortir s'appelle Mess on a Mission, comme le single, et c'est incroyable, c'est hanté, c'est sale, c'est dépressif, c'est diabolique, c'est terrible. Vraiment, c'est, il faut écouter les Liars, je pense que le clip est sur le site du Focus.
Ouais. Okay.
Il bastonne fort cet album, non? Enfin, moi j'ai jeté une oreille.
Tu dois écouter le reste, on est presque dans du bungle, quoi, tu vois, pour citer des références, choses déconstruites, méchants, désagréables, ah ouais. volontairement désagréables. Mmh. Et à côté de ça, t'as des,
Malpoli,
t'as des
tu
petites
veux dire.
Bombes très binaires.
Oui, moi, à mon avis,
électro,
je suis tombé sur les petites bombes très binaires, voilà. C'est très auto-tamponneuse, donc ça m'a un peu crispé.
Bah,
mais...
si, ça fait penser à Raptor, moi ça m'a beaucoup fait ah penser ouais. à l'album de Raptor, donc c'est vraiment de l'électro à la new-yorkaise, électro-rock new-yorkais qui est vraiment. Fin, si on aime ça, très bon.
Mmh. Et
un
enfin,
peu auto-tamponneuse, peut-être.
Le coup de cœur du chef.
Pour changer, puisqu'on a déjà beaucoup de musique, je vais vous en donner deux pour le prix d'un.
Ah.
Alors, un rapidement, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, c'est Michael Bormans.
Oui,
donc,
l'expo.
Le peintre voilà, qui est flamand, qui est exposé à Beaux-Arts. De la peinture contemporaine, mais qui trempe ses pinceaux dans les grands noms de la peinture classique. Franchement, c'est magnifique, c'est assez magnétique et des grands formats comme des tout petits formats, il arrive à capter une espèce de métaphysique de l'être comme ça. Mais c'est très prenant et ça fonctionne très bien parce que c'est à la fois mystérieux, mais à la fois très accessible. C'est très original. Voilà,
apparemment, c'est le peintre belge vivant qui se vend le plus plus cher
Oui, c'est vraiment une star internationale qui était pas prophète dans son pays, comme souvent, et donc qui maintenant, pour la première fois, bénéficie d'une large rétrospective. Donc on retrouve des travaux d'il y a 15-20 ans, et qui sont tout aussi prodigieux, parce qu'il réalise même des montages vidéo avec des petits personnages et figurines comme ça, un petit cinéma où on voit sur l'image de cette maquette un vrai film qu'il a réalisé. Enfin voilà, c'est des trucs assez fous, mais il y a toujours une touche de mystère qui le rapproche des peintres classiques dont il s'inspire, Velázquez et autres. Et c'est fabuleux, franchement, ça vaut les tours.
Et donc on peut le voir à Beaux-Arts.
À Beaux-Arts. Et alors rapidement, un petit roman court de Raphaël Eschenbrenner, qui n'est pas un auteur très connu, qui est une Française, qui a longtemps vécu à New York et qui nous raconte ici, très autobiographique, la chronique d'une jeune femme dans le New York de la fin des années 80. Et c'est un côté très nouvelle vague, parce que c'est des petits courts fragments de l'existence de cette génération de jeunes à l'époque qui sont dans un New York un peu déglingué et qui sont entre une espèce de no man's land entre l'adolescence et le monde des adultes, prennent pas leurs responsabilités, vivent en colocation, de petits boulots. Il y a de l'ennui, il y a des concerts rock dans les salles underground de l'époque, on croise, il se passe des petites scénettes un peu violentes au coin de la rue, parce que c'est les dealers qui règlent des comptes et tout, mais c'est raconté sur une tonalité assez légère, avec aussi pas mal de mélancolie qui traverse le roman. Voilà, c'est assez frais, c'est au seuil, et ça s'appelle Exil à Spanish Harlem.
Et le nom de l'auteur, tu nous le rappelles ?
Donc c'est Raphaël Eschenbrenner.
Merci chef.
Avec plaisir.
Et bien voilà, c'est tout pour cette fois. On se revoit dans 2 semaines avec un autre casting autour du micro. D'ici là, vous retrouvez-nous sur papier dans Focus toutes les semaines avec le Vif l'Express. On vous salue bien bas, on y va, on salue ?
On salue.
Salut.
Salut.
Salutations distinguées. Au revoir.